France Musique. Musicopolis. Avril 1862, Berlin. La Liebigsche Kapelle de Berlin, un orchestre réputé, annonce pour ce soir un programme un peu particulier. En effet, le public va découvrir la symphonie d'une compositrice, Emilie Mayer. Frau Mayer n'est pas une inconnue pour les Berlinois. C'est déjà la sixième symphonie qu'elle fait jouer dans la capitale prussienne. Néanmoins, les œuvres de femmes sont excessivement rares dans les concerts. Et pour les esprits curieux, c'est certainement une occasion à ne pas manquer. Pour être vraiment honnête avec vous, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce concert d'avril 1862 à Berlin. Même pas la date exacte, ni les autres pièces du programme. On n'a pas non plus de relation de la soirée dans les journaux. Mais on peut sans doute extrapoler et se référer à un autre article à propos d'un concert équivalent. Par exemple, dans le nouveau journal de musique de Berlin de 1878, nous trouvons la mention d'une exécution d'une autre symphonie d'Emilie Mayer. Mademoiselle Mayer est un phénomène rare, peut-on lire. Le sexe féminin montre habituellement beaucoup de talent dans la reproduction musicale, pouvant même rivaliser avec le sexe masculin. Mais la production est le domaine exclusif de l'esprit masculin. Et il est très rare qu'une personnalité féminine fasse la preuve que même cette règle ne souffre pas d'exception. Justement, voici une exception, une compositrice qui n'écrit pas seulement pour le piano, mais qui résout le problème épineux de la composition orchestrale qui fourmille de mille secrets. Et comme elle le résout ! Voici plus de 15 ans qu'Emilie Mayer vit à Berlin. Entre 1850 et 1853, quatre de ses symphonies ont été jouées au Théâtre Royal. Et en 1853, la symphonie en mi majeur a même été jouée devant la famille royale. Ensuite, il faut attendre donc 1862 pour qu'une nouvelle symphonie de la musicienne soit jouée à Berlin. C'est cette symphonie que nous écoutons aujourd'hui. pour comprendre l'exception figurée par Emilie Mayer dans le paysage musical allemand et même européen du 19e siècle, il faut remonter en arrière dans sa biographie. Allez, remontons donc jusqu'à son enfance. Emilie Mayer est née en 1812 à Friedland, une petite ville au nord-est de la Prusse. Son père est pharmacien et sa famille appartient à la bourgeoisie aisée, une famille de notables. Sa mère meurt en 1814 et les 5 enfants vont être élevés par le père, aidés de nourrices ou de gouvernantes. Herr Mayer tient à donner une bonne éducation à ses enfants. Les 3 garçons iront au lycée et les filles auront des précepteurs à la maison. Dès l'âge de 5 ans, Emilie a droit à des leçons de musique avec Karl Driver, l'organiste de Saint-Nicolas, qui fait aussi fonction de chantre, de sacristain et de professeur de musique. Il semble que la petite fille soit douée pour le piano et qu'elle montre volontiers ses compositions à son maître, qui l'encourage. Même si la petite Emilie Mayer est douée pour la musique, il est probable qu'à aucun moment il n'est question qu'elle en fasse son métier. D'une part, une jeune fille de la bonne bourgeoisie ne travaille pas, et d'autre part, il n'est pas souhaitable qu'elle se produise sur une scène. Karl Driver, le professeur de musique d'Emilie Mayer à Friedland-Mecklembourg, a beau être seulement un organiste de village, il a sans doute de grandes qualités de pédagogue. Sous sa férule, la jeune fille acquiert sans doute de très bonnes bases musicales. Peu à peu, ses frères et sœurs se marient et abandonnent la maison. Elle reste seule, célibataire, et elle tient le ménage de son père. Mais celui-ci, 26 ans tout juste après la mort de son épouse, se suicide. Emilie se trouve vraisemblablement à la tête d'une petite rente et du même coup, elle devient une femme indépendante, situation plutôt rare en ces temps. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, zerstückt. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schau ich zum Fenster hinaus, nach ihm nur geh ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seine Augengewalt, sein Hände druckt und ach, sein Kuss und ach, sein Kuss. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Lorsque, en 1840, à 28 ans, Emilie Mayer se retrouve seule et indépendante, maîtresse de sa vie, elle décide de se lancer dans des études musicales approfondies. Elle part pour Stettin, une ville qui se trouve aujourd'hui en Pologne, une grande ville à côté de son petit village de Friedland, très dynamique, qui compte parmi les plus riches de la mer Baltique. Lorsque Fräulein Mayer arrive à Stettin, le personnage le plus important pour la musique est alors Karl Löwe, qui depuis près de 20 ans est le directeur musical de la ville. Chanteur et compositeur, il est renommé dans toute l'Europe, notamment pour ses leaders. C'est lui qu'Emilie Mayer choisit comme professeur. Karl Löwe est aujourd'hui considéré comme un maître du lead et de la ballade. Néanmoins, il a écrit dans de nombreux autres genres, opéra, oratorio, musique religieuse et aussi symphonie, concerto, musique de chambre et pièces pour piano. Il semble avoir été un enseignant attentif et sous sa direction, Emilie Mayer a pu acquérir une formation théorique intensive. Elle a pu découvrir aussi les œuvres très variées que Löwe fait jouer à Stettin. Les grandes passions de Bach, le Messie de Handel, la création de Haydn ou le Paulus de Mendelssohn. En tant que directeur musical de la ville de Stettin, Karl Löwe ne se contente pas de programmer le grand répertoire dans ses concerts. Il peut également soutenir ses jeunes élèves, et notamment Emilie Mayer. Pendant son séjour à Stettin, elle compose deux symphonies qui sont jouées en 1847. À ce moment-là, Karl Löwe, jugeant qu'il lui avait appris tout ce qu'il pouvait, l'adresse aux deux plus grands professeurs de Berlin. Thank you. À Berlin, Emilie Mayer étudie de manière approfondie la composition avec Adolf Bernhard Marx et l'orchestration avec Wilhelm Wieprecht. Marx est un très grand théoricien de la musique et aussi critique et professeur. On lui doit notamment les 4 volumes de L'enseignement de la composition musicale, pratique et théorie. Le dernier volume paraît justement en 1847, l'année où Emilie Mayer devient son élève. L'enseignement de Marx a beaucoup d'importance puisque c'est lui, avec aussi son travail d'historien et de critique, qui va forger les grandes orientations de la musicologie allemande. Il écrit notamment un livre sur Beethoven qui va être le point de départ d'une sorte de religion beethovenienne et qui va contribuer à asseoir la position de celui-ci dans l'histoire de la musique. L'enseignement d'Adolf Bernhard Marx est très sérieux et il repose sur la connaissance très précise des classiques viennois, Mozart, Haydn et Beethoven. À tel point que l'un des quatuors à cordes d'Emilie Mayer, sans doute un travail d'école, est construit exactement sur le modèle du premier quatuor de l'opus 18 de Beethoven. Les goûts et l'enseignement de Marx sont plutôt conservateurs. Il semble que Fräulein Mayer n'a pas eu véritablement accès à la musique de compositeurs plus modernes, Schumann, Chopin ou Liszt. Néanmoins, il est un sujet sur lequel Marx est à la pointe, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratisation de la musique. Il croit fermement qu'elle doit être accessible à tous, y compris la théorie et la composition, qui ne doivent pas être réservées aux spécialistes. Et plus progressiste encore, il milite pour une éducation musicale sérieuse des femmes. Dans le Berlin de cette époque, c'est un engagement qui n'est pas anodin et dont Emilie Mayer va bien sûr profiter largement. Thank you. avec Marx donc, Emilie Mayer a accès à l'enseignement de la composition le plus sérieux possible. C'est aussi le cas avec son autre professeur, Wilhelm Wieprecht, compositeur lui aussi et réformateur de la musique militaire, grand spécialiste des instruments à vent, pour lesquels il réalise de nombreux arrangements des grands classiques. Wieprecht est également le fondateur d'un orchestre professionnel, l'orchestre Euterpe, qui joue les œuvres des jeunes compositeurs. Avec Marx et Wieprecht, Emilie Mayer a donc non seulement des professeurs extrêmement compétents, mais aussi très actifs pour défendre les œuvres de leurs élèves. Emilie Mayer, née dans un milieu qui ne la destinait pas à une carrière musicale, a eu la chance de trouver sur sa route des professeurs qui lui ont apporté un enseignement de qualité et qui ont pu l'aider à se faire jouer et à se faire éditer. En tant que célibataire indépendante, elle a profité d'une liberté qu'elle n'aurait pas eue dans d'autres cas, ce qui lui a sans doute permis de se consacrer à son art. Néanmoins, il lui a fallu lutter pour faire connaître sa musique. Et malgré toute cette énergie, elle a été oubliée tout de suite après sa mort. Depuis quelques années cependant, on redécouvre ses œuvres, dont 8 symphonies, 7 ouvertures, un concerto pour piano et de nombreuses œuvres de musique de chambre. De quoi donner des idées aux programmateurs de salles, peut-être. Finale, Allegro vivace de la symphonie en fa mineur d'Emilie Mayer, l'orchestre de chambre de Berlin dirigé par Jürgen Bruns. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Claire Levasseur pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.